Radio Okapi.
Le journal, je suis Moussa Okonde.
Cinq attaques meurtrières en une semaine à Djougou, en Ituri. Malgré le renforcement de la présence militaire dans la région, une délégation gouvernementale séjourne depuis hier dans le chef-lieu de cette province pour s'enquérir de la situation. Nouvelle naissance des gorilles de montagne dans le parc national des Virunga. On en compte 7 en 6 semaines. Patience Seiba, directeur général de l'OGFREM, est notre invité ce matin. Bonjour à tous. En Ituri, 5 attaques meurtrières en une semaine ont fait une cinquantaine de morts dans 4 collectivités en territoire de Djougou, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bounia. C'est notamment dans le Bahema Nord, Bahema Gbagourou, Bahema Banyangui et Endo Okebo. Ces tableaux sombres ont été dressés hier dimanche par des notables des entités attaquées. Selon ces sources, cette situation est difficile à expliquer avec le déploiement de militaires FRDC dans la région d'Elvin Waïsala.
La dernière attaque à date a été perpétrée par des assaillants dans la nuit de vendredi à samedi et même hier dimanche avant midi dans sept villages, notamment Salarita et Lugno, au groupement Mandro, à une dizaine de kilomètres au nord de Bounia, chefferie de Bahema Banyagi. Bilan provisoire des maisons incendiées, déplacement massif des populations, parfois avec l'air bête à Bounia. Aussi vers Tchomi et Kassegni, au bord du lac Albert, selon Bicho Panga Mandro, chef de Bahema Banyagi. Les capitaines des FARDC de se tuer, des billets des populations pillés, tels est le bilan d'une incursion des hommes armés à armée dans la nuit de jeudi à vendredi dans les localités de Tchatchaku, Upatati et Lidjo au groupement Toro à collectivité de Bahema Bagourou. Mais l'attaque la plus meurtrière de la semaine passée a été perpétrée par des hommes portant des armes blanches et à paix dans la journée de jeudi dans 3 villages du groupement Daoura à chefferie de Bahema Nord. Rebotche Diapataye, élu du territoire de Djougou, parle de 50 morts, tandis que le gouverneur des provinces qui était sur terrain confirme les décotes macabres des 34 morts. Bounia, Delve, Waïsala, Radio Cap.
Et à propos de cette insécurité à Djougou, une délégation gouvernementale et de la présidence séjourne depuis hier dimanche à Bounia pour s'enquérir de la situation. Le ministre de Défense, Atamatabe, fait partie de la délégation. Il s'exprime au micro de Delvin Waïsala.
Le chef de l'État nous a demandé de venir ici. Le vice-premier ministre, le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité et moi-même pour venir appuyer le gouverneur dans le combat qu'il mène contre cette cruauté, ce rebondissement de phénomènes que nous avons déjà oublié. Nous sommes là pour rétablir l'ordre. J'ai fait venir plus de 600 militaires de Guémena pour cela. Le commissaire général a fait venir plus de 300 militaires de Kinshasa pour cela. Ça ne préoccupe pas Kinshasa. Donc nous sommes obligés de suivre nos éléments, nos troupes sur terrain, pour que l'ordre soit rétabli.
Après ces nouvelles tueries dans le territoire de Djougou en Ituri, la société civile rappelle que le commissaire provincial de la police, le général Henri Gapend, avait annoncé il y a quelques jours avoir mis la main sur les présumés auteurs de massacres précédents, soit ceux d'il y a 2 mois. Elle exige donc un procès public rapide de ces personnes. Son coordonnateur estime que cela pourrait éclairer l'opinion sur la vraie identité de ces hommes qui sèment mort et désolation, principalement dans la communauté de Bahema Nord. Jean Bosco Lalo, président de la société civile de l'Ituri, est au micro de José Descharminga.
Nous voudrions lancer un appel pressant à toutes les personnes qui suivent la radio pour qu'ils s'impliquent. On ne saura plus gérer ça facilement. Il y a des assaillants qui ont été arrêtés, qui ont été appréhendés, qui sont ici à la police.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens?
Et nous voudrions que dans les heures qui suivent, que ces gens-là soient déférés devant les cours et tribunaux, en fait et au besoin que l'audience soit tenue en public pour que l'opinion soit fixée sur la vraie identité de ces assaillants-là. Parce qu'on en a besoin, on a trop spéculé, on a trop attendu, nous sommes au bout de patience, donc nous demandons ou nous exigeons même que ça soit déféré et pour que les têtes de ces personnes soient connues de tous et qu'on les traite comme telles.
Les parquets civils et militaires de l'Ituri affirment qu'ils n'ont reçu jusqu'à ce jour aucun dossier relatif au massacre de Djougou afin de programmer des procès au niveau des tribunaux compétents. Et puis, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, s'est dit gravement préoccupée par les actes de violence dans les territoires de Djougou, en province de l'Ituri, des violences qui ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes depuis janvier dernier, souligne un communiqué de la MONUSCO. L'attaque la plus récente, au cours de laquelle au moins 34 personnes ont été tuées, a eu lieu le 1er mars dans le village de Mazé. Michel Kifindangoy.
Je suis profondément choqué par cette dernière attaque qui a ciblé des civils et par le fait que la majorité des victimes soient des femmes et des enfants, déclare Leila Zerougui. La chef de la MONUSCO condamne toute forme de violence et appelle les autorités à enquêter rapidement sur cette attaque et à veiller à ce que la justice soit pleinement rendue. Madame Zerougui déplore aussi l'incendie d'habitation, des déplacements forcés et des actes de violence sexuelle dirigés contre des femmes. En soutien aux efforts du gouvernement congolais pour faire face à la détérioration de la situation sécuritaire, la MONUSCO a renforcé sa présence dans la zone en déployant 3 bases militaires temporaires et mène également des consultations avec toutes les communautés ainsi qu'avec les autorités afin de prévenir de nouvelles attaques et déstabiliser la situation dans la région.
Rendons-nous à présent au Nord Kivu, où la population des gorilles de montagne du massif de Virunga vient de s'enrichir avec 7 nouvelles naissances entre le mois de janvier et février 2018. Ces bébés gorilles sont nés dans 4 familles de gorilles habituées aux humains dans les secteurs Mikeno du parc national de Virunga, précise un communiqué officiel posté vendredi dernier. Bernard Danyangi. Revenons sur cet élément avec la naissance des gorilles au Nord Kivu. La population de gorilles de montagne vient donc de s'enrichir, j'ai dit, avec cette nouvelle naissance entre le mois de janvier et février 2018. Des bébés gorilles nés dans 4 familles de gorilles habituées aux humains. Nous suivons donc cet élément de Bernard Danyangi.
Les 5 premières naissances ont été enregistrées en janvier dans les familles Mapua, Umba et Kibirizi et les 2 autres au cours du mois de février dans la famille Bageni. En tout, 2 gorilles femelles et 5 mâles ont pu naître durant les 2 mois, disent les responsables du secteur Mikeno. Ce record est le résultat des efforts conjoints éco-gardes de l'ICSN et docteurs de gorilles qui ont réussi à dépolluer le secteur Mikeno des pièges qui menaçaient les gorilles et assurer le bon suivi et la préservation de la santé de ces grands singes, disent ses sources. Les 10 dernières années, la population de gorilles de montagne au monde est passée de 720 à environ 1000 individus, dont la moitié vit dans leur habitat naturel dans le massif de Virunga que se partagent la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Précisons que le gorille de montagne est la plus importante source des recettes touristiques, de l'ordre de plus de 300 millions de dollars américains l'an pour les 3 pays. Goma, Bernard Danyangi, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, la Fédération des comités des pêcheurs individuels du lac Édouard demande la démarcation de la frontière entre la RDC et l'Ouganda sur le lac Édouard. Dans une lettre adressée vendredi au gouverneur du Nord Kivu, la FECOPL dit que le balisage de cette frontière liquide a été décidé entre les émissaires de 2 pays à l'issue de la rencontre de juin 2016 à Kasese en Ouganda. Le secrétaire général de cette organisation basée à Vichumbi dit craindre que le retard dans l'exécution de cette mesure ne pérennise les conflits entre pêcheurs et forces des sécurité des 2 pays autour de la gestion des ressources du lac Édouard. José Moukoura au micro de Bernard Danyangi.
Il y a toujours des arrestations au niveau de l'Ouganda et même au Congo. Donc soit le pêcheur congolais arrêté en Ouganda, soit le pêcheur ougandais arrêté au Congo. Et dans la réunion de Kasese, les délégués des Congolais et les délégués des Ougandais, ils ont signé un communiqué qui a été pris comme un accord provisoire et dire pour arrêter ceci, puisque chaque parti aimerait défendre ses citoyens et son intégrité territoriale. Alors, il a été décidé que chaque délégation doit aller plaider, puisque la démarcation des frontières doit dépendre du gouvernement central. Alors, les délégués, comme l'ACT des autorités bureaux locales, ils ont jugé bon que chaque délégation doit partir et former son hiérarchie. Et c'est là où le gouvernement congolais, le gouvernement ougandais doivent prendre des dispositions pour la démarcation maintenant des frayères, en fait de réduire les conflits sur le lac Édouard entre les arrestations des pêcheurs congolais et les arrestations des pêcheurs ougandais.
Jusque-là, nos efforts pour joindre le gouverneur ou le ministre provincial des Affaires foncières sur la question n'ont eu aucun succès. Révision du code minier de 2002, le président Joseph Kabila rencontre demain mardi à Kinshasa sept représentants des sociétés minières. Le ministre des Mines, Martin Kabwelulu, l'a annoncé aux plus grands industriels miniers présents en RDC. Ces derniers ont adressé à trois reprises une lettre au chef de l'État dans laquelle ils demandent une audience pour faire valoir leur point de vue. En effet, le texte approuvé par le Parlement en janvier est fortement contesté par le multinational étranger Michel Kifindangoy.
Ce nouveau code minier est sur la table du chef de l'État depuis février pour sa promulgation. L'entrée en vigueur de ce texte prend du temps alors que c'est sur demande du président de la République qu'une session extraordinaire avait été convoquée, prioritairement pour permettre au Parlement de finaliser l'examen et l'adoption de ce nouveau code minier. Si la société civile congolaise a salué l'adoption de ce texte, ce n'est pas le cas pour les opérateurs miniers. Ces derniers s'opposent à certaines dispositions de la nouvelle loi minière. Il s'agit notamment de la hausse de la redevance minière de 2 à 10%, de la réduction de certains avantages douaniers et de la suppression de la clause de stabilité de 10 ans, c'est-à-dire le code minier peut, selon la nouvelle loi, être révisé à tout moment. La nouvelle loi minière devrait déjà entrer en vigueur depuis mi-février, conformément à la constitution congolaise qui dispose qu'en ayant 15 jours après sa saisine, si le président de la République ne promulgue pas la loi, celle-ci entre automatiquement en vigueur.
Également dans l'actualité, cette déclaration du directeur de cabinet du Premier ministre, Michel Nsomwe, affirme que la primature n'a jamais autorisé des décaissements de fonds inhabituels à la Banque centrale en faveur de certains membres de son personnel. Il réagit à la publication sur les réseaux sociaux des données chiffrées reprenant ces présumés décaissements. D'après ces données, le directeur de cabinet du Premier ministre et ses collaborateurs auraient détourné au mois de janvier, par exemple, plus de 370 millions de francs congolais. Pour les directeurs de cabinet du Premier ministre, il s'agit là des fausses informations qui ne reposent d'ailleurs sur aucun document comptable. Michel Somoué, joint par Paul Matendo.
Ce sont des gens malhonnêtes que je connais, qui sont venus avec une intention maléfique. Les finances publiques ont des documents clairs. La finance publique repose sur des pièces comptables claires. Et ces gens, quand vous lisez leurs communiqués, ils confondent tout. Ils parlent du plan de trésorerie en indiquant des tableaux de paiements exécutés. Alors là, on est dans un plan de trésorerie, on est dans l'exécution de dépenses. Ça, c'est de la confusion. Ils vous alignent des barèmes des membres du cabinet du Premier ministre qui n'existent pas. Ils alignent des montants qui ont été perçus au titre de frais de fonctionnement, alors qu'il y a des mois entiers que les frais de fonctionnement ne sont pas arrivés à la primature. Bref, tout un tas de monstruosités qui sont faites juste pour abuser de la naïveté de certains jeunes qui travaillent avec nous au sein du cabinet et qui n'ont pas la culture des finances publiques.
Actualité Afrique Monde.
En un an, la listériose a tué plus de 170 personnes en Afrique du Sud. L'ONU la considère comme la plus grande épidémie de listériose jamais vue, mais les autorités sud-africaines ont fait une grande avancée. Après des mois d'enquête, elles ont enfin trouvé une des origines de l'épidémie de cette maladie bactérienne. Il s'agit d'une entreprise de transformation de viande. Toute l'Afrique du Sud était devenue paranoïaque car la listériose a fait des victimes dans les 9 provinces du pays, principalement les femmes enceintes et les nouveau-nés. Le produit incriminé est un type particulier de viande produit à partir d'abats, de porc, de bœuf et ou encore de poulet. Le procès très attendu des compagnies pétrolières Eni et Shell s'ouvre ce lundi matin à Milan, en Italie. La justice les soupçonne d'avoir versé des pots de vin pour se voir attribuer un contrat concernant un bloc offshore au Nigeria. L'affaire porte le nom d'Opel 245 comme la concession pétrolière offshore au cœur du scandale présumé, une des plus prometteuses d'Afrique, avec ses réserves estimées à 9 milliards de barils de brut. Dans le box des accusés, le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, le directeur des explorations de Shell, Malcolm Brinded. Les deux sociétés leaders dans l'industrie comparaissent en tant que personnes morales. Nous ouvrons la seconde partie du journal avec ce dossier. La ville de Mbujimayi au Cas-Oriental ne dispose pas de cimetière à proprement parler. Les familles vont inhumer leurs proches soit au cimetière de Bakwanga, à la limite sud de la ville, soit au-delà de la rivière Lubilanji, Mbujimayi, dans les secteurs de Nsangu, en territoire de Katanda. Pendant ce temps, au gouvernement provincial, on estime que ces cimetières privaient ses ressources de nuisance ou de pollution de l'environnement. Un dossier de Chris Mokand.
Le gouvernement provincial du Kasaï-Oriental se propose d'envoyer une commission d'enquête à Tshitenge pour s'assurer des suspicions des contaminations de la rivière Lubilanji et de la source Albert par le cimetière moderne, une propriété de l'ONG Centre de Réhabilitation pour le Développement Social, CRDS en sigle. On écoute Hippolyte Mouton-Bomboboué, ministre près le gouverneur du Kasaï-Oriental et porte-parole du gouvernement provincial.
Le cimetière moderne de Tshitenge est soupçonné contaminer la rivière Mbujimayi et la source Albert. Une commission ad hoc a été constituée et s'y rendra bientôt pour des investigations détaillées.
Le cimetière moderne de Lubilanji a été inauguré le 23 mars 2013 par Jean-Marie Mbalamwambila Bantou, alors gouverneur du Kasaï-Oriental. 15 ans plus tard, il ne reste pas plus de 1000 places disponibles. Le cimetière moderne de Lubilanji, source de nuisances, son propriétaire ne voit pas les choses sous cet œil. Lui, Nikita Kabeya Chibamba, est de surcroît hydrologue de formation.
La rivière Lubilanji est à 400 mètres de nos installations. La source Albert est à 1400 mètres de nos installations. La nappe phréatique est à 18 mètres. Et la terre où est installé ce cimetière est argilée. C'est un filtre par excellence dont nous avons été accusés à tort à travers que nous sommes en train de polluer la source Albert et la rivière Mbujimayi. Et pourtant, la rivière Mbujimayi, à partir de Lomwela, il y a les débourbages qu'on déverse sur cette rivière. Cela est à la base de la réduction de la vie aquatique. Mais personne ne dit mot.
En attendant que le gouvernement provincial diligente son enquête, réfléchissons avec M. Aimé Chibanda, chef des travaux, doctorant en hydro-environnement et vice-doyen de la faculté des sciences à l'université officielle de Mbujimayi.
Le cimetière de Lubilanji se trouve sur le flanc d'une colline qui constitue un bassin versant de la Mbujimayi, ce qui fait que, à ce niveau-là, la nappe phréatique ne peut pas être très éloignée. Et compte tenu de sa proximité d'abord avec la rivière et l'inclinaison, donc la pente est forte là, les ruissellements qui se font peuvent entraîner des glissements de terrain, ce qui fait que c'est une zone à très haut risque sur le plan environnemental, mais on ne peut pas se fier seulement à ce seul paramètre. Il faut une étude approfondie, l'étude d'impact environnemental. Le cimetière de Lukelenge également, ce cimetière-là se trouve en amont de la source Albert. Et tout ça présente des risques qu'il faut évaluer.
Chris Mukand, Mbujimayi, Radio Kapi.
Jean-Désiré Kanyama a parcouru les journaux parus ce matin, mais aussi les médias en ligne. Il nous propose cette compilation.
Un sondage d'experts de l'Université de New York sur la présidentielle 2018. Katumbi, Tshisekedi et Mouzito, les trios gagnants, titre à la une des potentiels. Pour ce quotidien quinois, la réalité de la dynamique politique en RDC est reflétée de manière objective et donc indiscutable par ces experts de l'Université de New York, dont le sérieux ne peut être mis en doute. Si, et seulement si, la présidentielle avait eu lieu hier dimanche, c'est dans cet ordre que les candidats se seraient alignés. Moïse Katumbi aurait raflé la mise avec 26% des votes. Félix Antoine Tshisekedi viendrait en deuxième position avec 14% des voix et l'ancien Premier ministre Mouzito bouclerait les trios gagnants avec 9%, écrit le potentiel. 7 sur 7.cd revient sur le propos de ce Sanga et titre « Si l'accord est appliqué, la question du retour de Moïse Katumbi ne se pose pas ». Pour les coordonnateurs de l'AR, les élections ne peuvent pas être inclusives sans la participation de tous ceux qui veulent concourir à tous les niveaux. 7 sur 7.cd site de lycée Sanga est conclu. On ne peut pas imaginer par exemple une élection présidentielle que l'on pourrait qualifier de libre et d'inclusive sans la participation des candidats majeurs comme la candidature de Moïse Katumbi. Au Forum des As, titre à la une, la chef de la MONUSCO condamne des attaques ciblées contre les civils en Ituri. Leïla Zerougui demeure gravement préoccupée par les actes de violence dans le territoire de Djougou qui ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes depuis janvier dernier, indique Forum des As. Politico.cd, dans le même sens, écrit à la une, la MONUSCO gravement préoccupée par les actes de violence en Ituri. Dans un communiqué publié hier dimanche, Leïla Zerougui condamne des attaques ciblées, toute forme de violence contre les civils, femmes et enfants en majorité, et appelle les autorités congolaises à enquêter rapidement sur ces attaques, mais aussi à veiller à ce que la justice soit pleinement rendue, écrit Politico.cd. La Prospérité, dans son éditorial, revient sur la machine à voter et écrit « Voici les 45 questions de l'UDPS à la CENI ». Après désistement, l'UDPS limité a finalement répondu à l'invitation de la CENI qui, pendant cette période teintée de suspicions, consulte la classe politique sur le processus électoral. L'idée est de rassurer les différents partenaires au processus électoral, rappelle la Prospérité. La délégation de l'UDPS a saisi cette opportunité pour déposer à la centrale électorale un groupement de 45 questions et entrer à la fameuse machine à voter. Des réponses attendues par la fille aînée de l'opposition pourront probablement déterminer la position définitive qu'elle adoptera en rapport avec le processus électoral que mènent Corneille Nanga et les autres animateurs de la CENI, conclut la Prospérité.
L'invité.
L'administration douanière tanzanienne a mis fin le 27 février dernier à l'accord relatif à un territoire douanier unique signé entre la Tanzanie et la RDC le 9 juin 2014. Du coup, des produits tels que la farine de blé, le carburant ne passeront plus par la frontière de Tunduma, tel que prévu par cet accord. Quelles sont les conséquences de cette décision et comment la RDC devra-t-elle se comporter? Patient Saïba, directeur général de l'OGFREM, répond à ses préoccupations. Il s'entretient ici avec Paul Matendo.
Patient Saïba, bonjour.
Bonjour, monsieur.
La Tanzanie a mis fin à un accord signé avec la RDC le 9 juin 2014, lequel accord stipulait que des produits comme le carburant, l'huile de cuisson, la farine de blé et autres devraient être acheminés vers la RDC via la frontière de Tunduma. Voulez-vous nous expliquer clairement le contenu de cet accord?
Bien, il faut d'abord savoir que c'est un protocole d'accord qui a été signé entre les deux administrations douanières, celle de la République unie de Tanzanie et de la République démocratique du Congo, à savoir donc la Direction générale des douanes et accises. Cet accord faisait donc suite au système du territoire douanier unique, qui est un système douanier qui a été mis en place par l'East African Community. Et à la demande de la partie tanzanienne, la Direction générale des douanes et accises a signé avec la TRA, Tanzania Revenue Authority, donc l'autorité des recettes de la Tanzanie, pour assurer une meilleure prise en charge des marchandises à destination de la République démocratique du Congo. Et la phase pilote, c'était l'axe Dar es Salaam-Lubumbashi via Tunduma, qui est donc la frontière entre la Zambie et la Tanzanie. Et donc ce système voulait donc assurer que toutes les marchandises qui vont en République démocratique du Congo en passant par le port de Dar es Salaam vont bel et bien arriver et vérifier donc la quantité, la qualité, les valeurs et tout et consorts. Mais aussi la République unie de Tanzanie voulait se rassurer que toute marchandise déclarée en transit vers la RDC ne sera pas reversée sur son territoire. C'est donc un système de lutte contre le dumping.
Quelles pourraient être, selon vous, les conséquences immédiates de cette décision sur l'économie congolaise?
Ici, je crois que comme il s'est agi d'un accord, un protocole d'accord entre deux parties, en principe les deux parties devraient évaluer d'abord le système qu'ils ont eux-mêmes mis en place et savoir si ce système a marché ou pas pour en tirer les conséquences et pouvoir savoir la suite à donner. Mais je constate ici que la décision prise par la Tanzania Revenue Authority, il me semble que c'est une décision unilatérale. Je ne sais pas si la Direction générale des douanes et accises a été associée.
Vous parlez d'une décision unilatérale. Qu'est-ce qui expliquerait ce comportement?
Et je pense qu'au départ, certains opérateurs économiques de la République unie de Tanzanie, et particulièrement les transporteurs, ils se sont plaints du fait que le système, initialement devant être électronique, commençait à prendre des allures d'un système qui redevenait manuel. Et ils accusaient le système d'une certaine lourdeur. Il me semble que c'est ce qui a conduit à cette résiliation unilatérale.
Qu'est-ce que la RDC doit faire par rapport à cette décision tanzanienne pour maîtriser son impact?
Oui, d'abord nous devons corriger les failles ou compléter peut-être le système TDU tel qu'il avait été signé entre les deux administrations douanières. En effet, la marchandise, c'est un outil ou une matière de souveraineté de tout État. Et la République démocratique du Congo a autant d'outils de contrôle et de prise en charge de la marchandise. La direction des douanes et accises prend en charge la marchandise dès qu'elle arrive sur son territoire. L'office de gestion du fret multimodal, le GFM donc, assure la traçabilité de la marchandise, non seulement sur le territoire de la République démocratique du Congo, mais même dans les couloirs des désenclavements. Je pense, concernant particulièrement cette question, il faut que la direction générale des douanes et accises, l'office de gestion du fret multimodal, sous la conduite de l'ambassade de la République démocratique du Congo en République unie de Tanzanie, que les deux structures puissent se concerter et qu'elles puissent assurer une prise en charge totale et complète, de manière à ce que la République démocratique du Congo ne puisse pas perdre la traçabilité de la marchandise qui part du port de Dar es Salaam jusque au niveau de nos frontières. Parce que rassurez-vous, de la République unie de Tanzanie, donc du port de Dar es Salaam jusqu'à nos frontières, c'est plus de 200 km. Et lorsque vous n'assurez pas la traçabilité de la marchandise, beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est là qu'on connaît, par exemple, les phénomènes de fractionnement des marchandises ou de dénaturation même de la marchandise ou même, je dirais, la falsification des valeurs. Et ça porte un coup dur ou ça porterait un coup dur à la mobilisation des recettes dont on a besoin particulièrement en ce moment.
Patience, Aïba, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur.
Okapi Sport. Kanish Mukungu, bonjour.
Bonjour Jocelyne Moussao, bonjour à mes sportifs. Nous commençons par le beach volley. La République démocratique du Congo RDC et le Congo Brazzaville sont qualifiés pour les Jeux africains de la jeunesse qui auront lieu au mois de juillet en Algérie. Une joie pour les coachs des Léopards d'Am Congo, Lo Idrissa Armand. Il s'est exprimé au micro de Nakuma Tondo.
Je suis très content pour la victoire de mes joueurs et joueuses. En tout cas, je suis vraiment très content.
Vos joueuses ont fait leur premier pas en beach volley. Elles ont certes gagné, mais pas, et non pas trop convaincues.
Bon, en fait, ce que je peux dire, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de travail. On a travaillé pratiquement presque 2 ou 3 semaines qu'on a travaillé avec eux. Bon, quand même, ils ont donné quand même le meilleur d'eux. Bon, en fait, comme le premier tour est passé, on va encore rentrer au ghetto pour retravailler encore, pour ajouter encore ce qui a manqué, pour qu'à la prochaine étape, qu'ils puissent un peu convaincre les gens de ce qu'on va leur apprendre.
Oui, ça sera à l'extérieur, loin du public, et qui leur a supporté aujourd'hui?
Bon, c'est aussi quelque chose aussi qui joue aussi, mais en fait, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Ce sont de jeunes joueuses et des jeunes joueurs. Si on est parti pour prendre des résultats, c'est mieux, ça nous fera aussi plaisir, mais nous sommes d'abord partis pour apprendre. Mais si nous revenons avec des résultats, des bons résultats, en tout cas, ça nous ferait énormément plaisir.
Chez les seniors, la RDC a occupé la première position à la première étape des éliminatoires du tour de la zone 4. Vu en deuxième position, le Congo Brazzaville, le Cameroun a occupé la troisième marche du podium et le Gabon est au pied du podium. Rappelons que ces éliminatoires se déroulent en 4 tours, dont le premier ici à Kinshasa, le deuxième au moins un mois plus tard à Bangui, République centrafricaine, le troisième à Yaoundé, Cameroun, le dernier à Libreville, au Gabon. Football, compétition africaine interclub de la CAF. Le tout-puissant Mazembe acquérera le Mozambicain de Udé Songo à 15h30 le mercredi 7 mars dans son stade de la commune de Kamalondo pour les 16e de finale aller de la Ligue des Champions. Le joueur est membre du staff technique et direction de travail d'arrache-pied afin de passer cette étape pour accéder au stade TP Mazembe le mercredi. Les services de la billetterie a programmé les lancements de la vente de ce lundi 5 mars à 8h. Les places varient entre 3000 francs et $50 américains dans la même compétition. La Svita Club séjourne depuis samedi au Maroc. De feux noirs seront reçus le mercredi par El Jadidi à 14h, soit 15h de Kinshasa au lieu des 18 joueurs retenus pour la rencontre. Les staffs techniques de la Svita Club a amené tous les joueurs retenus pour la présence des compétitions continentales. Football toujours au préliminaire de la Coupe du Congo Lice New qui débute et représentera la province du Nord Kivu à la prochaine édition de la Coupe du Congo de football. Nyuki a obtenu son ticket après sa victoire sur le football club Kassindi, 1-0 hier au stade Matokeo de Butembo. Le même jour, DC Dallas a eu raison DC Likonga, 2-0. En tant que provincial de football de Kinshasa Pekin, victoire d'FC Système sur PJSK, 1-0 hier au terrain au Jana, un match de la 21e journée, un deuxième rencontre Edimo était fort que Air Bruce, 2-1. Le programme de ce lundi prévoit 3 matchs à l'affiche du stade Père Raphaël. En première explication, Sotraf canton d'Akimouna. Avant de suivre les duels entre Ojoulou et JSK, en dernière rencontre, on retrouve Kouya qui va croiser Sadaka. En tant qu'urbaine de football de Kananga, FKANA Saint-Luc a consolidé sa place, sa première place au championnat en battant Nouvelle Génération par 2-0 au stade jeune de la commune de Katoka dans le cadre de la 17e journée. En deuxième explication, Malolé s'est fait accrocher par Olympique Club Kempe Oseka. Nul d'un but partout. Le championnat se poursuivra le mercredi avec le démarrage de la 18e journée. On revient dans nos prochaines interventions avec les autres ententes à travers la République.
Merci Kanish. Le cours de change en dollars américains s'achète à 1583 francs congolais et se vend à 1648 francs congolais. Fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.